France Inter.
Salut Blockbuster. Merci pour cette émission sur Amy Winehouse. J'avoue que j'avais jamais trop écouté cet artiste. Je connaissais pas très bien. Donc ça m'a vraiment intéressé ce que vous avez pu dire sur son histoire et sur sa vie et sur ses accomplissements d'artiste. J'ai donc écouté Back to Black et j'ai été frappée par le niveau d'émotion qu'elle réussit à transmettre dans sa voix et ça m'a vraiment touchée. Donc je vous remercie pour cette belle découverte et je vous souhaite un bon été. Salut Blockbuster.
To be or not to be, not to be.
Ça fait des années que j'essaie de convertir mes enfants au comic book. Alors ils lisent de tout, hein, de la BD française et franco-belge, et plus spécifiquement du manga. Mais j'avoue, j'aimerais provoquer chez eux le même émoi que quand j'ai découvert mes premiers comic books à moi, X-Men ou Batman. Alors j'essaie de faire les choses bien. Je choisis des arcs narratifs magnifiquement dessinés, excellemment bien écrits, où il n'y a pas besoin d'avoir lu 25 séries sur 10 ans pour comprendre ce qui se passe. En général, j'endosse le rôle du libraire qui a le conseil détendu. Je prends garde de choisir de beaux livres, bien édités, sur du beau papier. Un écrin qui met en valeur le travail de l'artiste. Et ben vous savez quoi ? Ah, ça prend pas. Non, à chaque fois j'ai droit à un « Ouais papa, c'est pas mal ». Ezou, il retourne lire les aventures des lycéens aux grands yeux qui se battent contre des yokai en slip dans des couloirs de leur école. Je suis dépité. J'ai filé les deux premiers tomes d'Aquaman à mon plus grand, dessiné par l'incroyable Ivan Reis et scénarisé par Jeff Jones. C'est magnifique, c'est rythmé, c'est du comic book grand spectacle, un blockbuster de BD popcorn dans le meilleur sens du terme. Prise de risque minimale. Et ben j'ai senti qu'il avait lutté pour le lire. Alors il a voulu ménager ma sensibilité, bien sûr. Il m'a dit « Tu sais papa, je crois que je préfère les personnages urbains. » Comme Miles Morales ou Batman. Là, Atlantis, le super-héros qui parle aux poissons, c'est un peu loin de moi. Et là, j'ai su qu'ils se foutaient de ma gueule. D'Ivoire, d'un One Piece, combien de temps ils ont passé sous l'eau à parler à des hommes poissons et des femmes sirènes? Ça ressemblait pas trop à la Seine-Saint-Denis, hein. Et ma compagne, c'est pareil, je lui conseille un comic book. C'est non. Par contre, on ressort exactement la même histoire dans un format 2 cm plus grand. On appelle ça roman graphique, avec dessus marqué Prix Ragondin Angoulême 2024. Et ben là, elle va le lire et elle va me dire « Eh mais d'Ivoire, c'est vachement bien ça !» Et ben vous savez quoi? Je crois que ça doit venir de moi.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglis.
En 1961, Jack Kirby et Stan Lee créent la première équipe du monde Marvel telle qu'on le connaît aujourd'hui. Une famille d'aventuriers de l'étrange qui revient dotée de super-pouvoirs d'une virée dans l'espace qui a mal tourné. Alors dans l'univers Marvel, on appelle ça un mardi. Red Richards, Sue Storm et son frère Johnny, sans oublier Benjamin Grimm, deviendront ceux que l'on connaît depuis sous le nom des Quatre Fantastiques. Une famille qui s'agrandira plus tard avec les enfants de Red et de Sue, Franklin et Valeria, mais surtout une série qui verra apparaître certains des personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel. Galactus et le surfeur d'argent, Black Panther, Namor, sans oublier l'un, si ce n'est le meilleur vilain de cet univers, Victor von Doom, alias le Docteur Fatalis, en VF. Pour retracer l'historique de cette famille unique, je suis en compagnie de Xavier Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste et conférencier. On vous doit plusieurs ouvrages dédiés aux super-héros, dont Super-héros 2 points, une histoire française qui vient d'être rééditée en version augmentée. Et vous êtes également le co-commissaire de l'exposition Super-héros et compagnie, l'art des comics Marvel, à voir actuellement à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême jusqu'en mai 2025.
Voilà.
Avec nous de retour également Arnaud Tomassini, bonjour.
Bonjour Fred.
Vous êtes le rédacteur en chef de comicsblog.fr et coproducteur de l'excellent podcast First Print.
C'est ça, merci.
Et évidemment, c'est un binôme. Corentin Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également rédacteur pour comicsblog.fr et coproducteur du podcast First Print.
Oui, tout à fait.
I was ready to quit by about
J'étais prêt à démissionner autour de 1960-1961. Je faisais déjà ça depuis 20 ans. Et j'ai dit à ma femme, écoute, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose que je puisse faire. Je pourrais essayer d'écrire un roman, ou je ne sais quoi.
Et
elle m'a dit, Stan, si tu veux démissionner, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas d'abord un comics d'une manière dont toi tu en as envie? Pour un public peut-être un peu plus âgé. Écris-le comme tu le sens, comme tu en as envie. Le pire qui puisse t'arriver, ce serait de te faire virer. Mais dans tous les cas, tu voulais démissionner. Quand Joan a fini par dire pourquoi tu ne fais pas une BD comme tu aimerais qu'elle soit, c'est comme si j'avais littéralement eu une ampoule qui explosait au-dessus de ma tête. J'avais l'impression qu'enfin j'allais pouvoir me sortir cette idée de la tête. Et puis ensuite, je démissionnerai ou je serai renvoyé. Martin m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une BD avec tout un tas de héros ? Je me suis dit, ok, je vais faire un groupe de héros, mais cette fois, je voulais les faire à ma manière. Et je voulais écrire des choses qui puissent intéresser un public aussi un peu plus vieux. Si j'avais un super pouvoir, il n'y aurait aucune chance que je veuille porter un masque et que les gens ne sachent pas qui je suis. Je voudrais que tout le monde me regarde et regardez ce que je peux faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Je suis meilleur que vous et regardez mon nom si vous ne me croyez pas.
Une interview de Stan Lee, extrait du film With Great Power, The Stan Lee Story, réalisé par Terry Dugas et Nikki Freaks en 2010. Xavier Fournier, alors là on a entendu Stan Lee, comme d'habitude, comme à son habitude extrêmement humble. Comment sont nés les 4 Fantastiques ?
J'ai envie de dire que c'est tout sauf la manière de Stan Lee d'écrire, c'est-à-dire que la petite histoire voudrait que Martin Goodman, le propriétaire de Marvel, ait par deux fois d'abord tenté d'arrêter de publier des comics, et même envoyer des ouvriers déménager les meubles, et qu'à chaque fois, Stan Lee, qui était son cousin par alliance, les suppliait de leur laisser une autre chance. Et à l'époque, les comics qu'ils éditaient, c'était des petits comics d'horreur ou des histoires de western. Et la petite histoire voudrait que Martin Goodman soit parti jouer au golf avec des gens de DC Comics, qui éditaient une nouvelle série qui s'appelait la Justice League, que les gens de DC Comics se soient vantés de leur vente, et que Martin Goodman soit revenu au bureau furieux en disant « Je viens de passer pour un idiot, refaisons des super-héros ». En fait, apparemment, tout ça, c'est faux. C'est très probable que Martin Goodman ait vu les ventes de la Justice League. Et en plus, quand on regarde les premiers épisodes de la Justice League, il se trouve qu'ils affrontent un extraterrestre enflammé. Or, il se trouve que Marvel, dans les années 40, avait publié une première version de la Torche Humaine, donc qui est un être qui peut s'enflammer. Et il semble donc très probable que Goodman furieux soit revenu en leur disant « Attendez, ça c'est notre personnage qu'ils sont en train de faire, ils font des ventes, refaisons des choses comme ça ». Et il y avait un template, un modèle qui existait déjà chez DC Comics, d'ailleurs, qui avait été fait par un dessinateur qui s'appelle Jack Kirby, qui est le co-créateur de Captain America, qui avait fait les Challengers de l'Inconnu, qui sont 4 types qui, suite à un accident, un crash d'avion, ont survécu et décident de devenir des aventuriers du surnaturel. Et eux-mêmes n'ont pas de super pouvoir, mais on retrouve le leader, qui s'appelle, on retrouve un scientifique.
On retrouve la combinaison unique pour toute l'équipe.
Voilà, alors ils sont 4 types. Et il y a une jeune femme blonde qui vient de se rajouter là-dessus, donc qui est un peu l'équivalent de Sue Storm. Et surtout, dans un épisode, l'un des Challengers de l'Inconnu part dans l'espace, en revient modifié par l'expérience spatiale, et il a différents super-pouvoirs, donc le pouvoir d'émettre des flammes. Donc l'un dans l'autre, en reprenant les Challengers de l'Inconnu de Jack Kirby et en leur donnant un parfum de super-héros, on arrive aux 4 Fantastiques.
Corentin, que représentent les 4 Fantastiques pour le monde Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui ?
Déjà, évidemment, c'est la première, comme vous aviez l'a dit, création, on va dire, de Stan Lee et Kirby dans ce qu'on va appeler le Marvel moderne, donc le Marvel de l'âge d'argent. Au départ, il y a les éditions Timely où apparaissent Captain America, la Torche Humaine, Namor, le sous-marinier. Et après la Seconde Guerre mondiale, les comics de super-héros vont tomber en désuétude, et à part quelques titres chez DC Comics, justement, Marvel se tourne donc vers effectivement des comics de western, des comics d'horreur. Et puis, ce qui se passe, c'est que chez DC Comics, en fait, un éditeur qui s'appelle Julius Schwartz va être mandaté pour réinventer des vieux personnages qui ont disparu justement après le déclin des super-héros, notamment le Flash et Green Lantern. Mm-hmm. Et on amorce justement une période qu'on appelle l'âge d'argent des super-héros, donc une période qui, on va dire, un peu plus complexe que l'âge d'or, et où la science vraiment devient en fait le maître mot des origines de pouvoir, de super-vilains, etc. C'est la première vraie équipe de super-héros, de la continuité, donc la continuité c'est ce qui part en fait des Quatre Fantastiques jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les aventures qu'on connaît, c'est vraiment de là que jaillissent toutes les idées qui vont ensuite devenir fondatrices, élémentaires pour ce monde-là. Comme tu l'as dit, Galactus évidemment, le Silver Surfer, mais pas que, le Docteur Doom, les Inhumains. Il y a énormément en fait de personnages, même le Black Panther, qui vont apparaître au sein des Quatre Fantastiques. Quand Spider-Man apparaît, d'abord dans Amazing Fantasy XV, puis dans sa série à lui, il postule pour devenir un membre des Fantastic Four. C'était un vrai blockbuster.
Ce qu'il finira par devenir.
Tout à fait, bien sûr. C'est un vrai blockbuster qui est très ancré dans son époque. C'est-à-dire que c'est une saga familiale qui représente justement l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire une Amérique qui est très... très lié, très cousu par justement ce côté très optimiste, ces relations interpersonnelles qui sont vraiment très importantes au cœur de l'équipe. Aussi, la course à l'espace, qui est très importante, la découverte scientifique après l'atome, après justement la modification, les recherches génétiques. Et tout ça, en fait, incarne vraiment les années 60, pas que chez Marvel, mais dans le monde des comics, dans l'imaginaire américain en règle générale. C'est aussi pour ça qu'ils auront plus de mal à évoluer dans le temps, à s'adapter aux époques suivantes. Mais voilà, c'est l'équipe fondatrice, FF, c'est Fantastic Four, c'est aussi la First Family.
Arnaud, justement, cette difficulté à s'adapter dans le temps, on le voit, autant les années 60 ont été une sorte de vivier d'histoire, il y avait des créations quasiment à chaque épisode, et avec le temps, quand Marvel a évolué, on a senti que les Quatre Fantastiques étaient quelque chose que Marvel gardait, mais on sentait un petit peu que c'était sans trop savoir quoi en faire. Il y avait des moments où c'était plus le côté totem historique qu'une vraie série sur laquelle on mise. Comment on explique cette difficulté à gérer cette famille, en fait ?
Peut-être parce que le berceau, enfin, ce qui a vu naître les Quatre Fantastiques, en fait, et la représentation idéale de la famille, enfin, telle qu'on pouvait l'imaginer dans les années 60, n'a pas forcément évolué. Enfin, c'est un peu une image d'Épinal, en fait, qu'on aime garder aussi, qu'il y a forcément un lien quand tu es éditeur de personnages de super-héros. En fait, il y a des codes et des sortes de poncifs, en fait, qui doivent rester dans le temps et qu'on a du mal, en fait, à faire évoluer, cela dit. Enfin, les Quatre Fantastiques ne sont pas restés statiques dans le temps, puisque quelques années seulement après la création, enfin au départ, Reed Richards et Sue Storm sont en couple, mais ils vont se marier. Il se passe, je crois, 6-7 ans avant que des premiers enfants naissent, donc c'est quand même une structure familiale qui va évoluer.
Ce qui est assez rare, justement, dans un médium où on a tendance à rebooter, à faire revenir en arrière.
À annuler des mariages, à faire ce genre de choses-là. Après, peut-être aussi que par rapport aux normes de ce qu'est la famille en tant que telle, la structure familiale maintenant dans nos sociétés modernes, il y a peut-être aussi une forme de décalage qui s'est créée, avec forcément plus de 60 années d'existence entre ce que peut représenter la famille idéale aujourd'hui de ce qu'elle était à l'époque.
Xavier ?
Moi, je pense qu'il y a deux choses qui caractérisent Marvel dans les années 60. C'est l'adoption d'une chronologie, d'une évolution. Puisqu'avant, quand on regarde dans les années 50, Batman ou Superman, chez la concurrence, ils sont comme Tintin, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas. Robin, en 1940, dans les aventures de Batman, il a le même âge qu'en 1956, dans les aventures de Batman. Il ne vieillit pas d'un poil. Et dès qu'on arrive sur Marvel et la renaissance de Marvel, il y a plein d'indications comme ça chronologiques, ne serait-ce que le fameux Captain America qui se réveille, qui sort de la glace et qui découvre que le temps a changé. Et on a effectivement cette évolution des Quatre Fantastiques, et en particulier du couple au centre des Quatre Fantastiques, qui commencent fiancés, qui vont être mariés, qui effectivement, avant la fin des années 60, se retrouvent père et mère. Je pense qu'en fait, c'est à la fois ce qui fait le charme de la série dans on va dire de la première décennie, et en plus toute la période où elle est dessinée par Jack Kirby, qui a une imagination totalement folle et sans bornes. Je pense même que d'ailleurs chez Marvel on essayait de le ramener un petit peu terre à terre, parce que c'était une invention cosmique à chaque numéro sur la fin. Et en fait on a ce problème que Marvel est très performant auprès d'une jeunesse qui est un petit peu en révolte dans les années 60. Sauf qu'une fois que les Fantastiques sont mariés et commencent à avoir des enfants, dans les années 70, vous parlez moins à une jeunesse qui peut-être,
à
partir de ce moment-là, elle ne se projette plus dans cet idéal de fonder une famille et à d'autres préoccupations, ne serait-ce que des loisirs, des choses comme ça, avant. Donc il y a ce côté, peut-être que dès les années 70, les Fantastiques deviennent un petit peu le comic book de papa.
Et c'est plus les X-Men après qui prennent ce rôle un peu plus de révolté et qui vont beaucoup mieux évoluer et se transformer au fil des générations. Mais ceci étant dit, je voulais juste dire un truc. Excusez-moi, pardon. Le personnage de Reed Richards, quand même, il est redevenu, on va dire, plutôt cool ou plutôt utile dans le présent à l'aune justement de ce regard du scientifique qui voit tout et qui sait tout par rapport aux enjeux climatiques modernes, par rapport à l'éventuelle transition vers Mars qui intéresse certaines personnes. Et c'est devenu un personnage tragique en fait qui justement essaye de sauver le monde face à une humanité qui clairement n'a pas forcément envie de se laisser faire. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup plus de séries comme Season 1 par exemple, ou Life Story, ou de très bons runs comme ceux de Mark Waid, de Straczynski, de Jonathan Hickman, pour citer quelques noms, qui justement remettent vraiment les Fantastic Four au centre de l'équation, même si ça reste quand même toujours, effectivement, comme Arnaud l'a dit, assez lointain. Ça reste la famille fondatrice, elle aura jamais le poids des Avengers ou des X-Men chez Marvel.
Oui, et puis en plus, via cette structure particulière qui existe chez les 4 Fantastiques, c'est-à-dire une famille avec Reed Richards, un savant qui a breveté quasiment la quasi-totalité des inventions du monde Marvel, mais qui en même temps veut résister aux grosses corporations. Il y avait aussi énormément d'épisodes où ils sont ruinés, c'est-à-dire où ils sont expulsés de leur immeuble, le Baxter Building, parce qu'ils n'ont pas voulu vendre, parce qu'ils n'ont pas voulu faire commercer avec l'armée américaine, par exemple. Il y a aussi cette dimension de savant qui essaie de rester l'Oppenheimer, mais qui n'aurait jamais vendu sa bombe atomique.
Oui, dans ces dernières années, il y a plus un jeu sur le fait que Reed Richards a les bonnes solutions pour sauver le monde, donc il essaye de passer un maximum de temps dans son laboratoire, et en même temps, on nous montre bien que c'est au détriment de sa famille, et donc son épouse et ses enfants viennent un peu le chercher, et donc il est dans une position assez délicate, où à chaque fois qu'il s'enferme pour faire des inventions, finalement il sacrifie une partie de son univers privé, et les scénaristes les plus récents jouent beaucoup là-dessus.
Ce qui est fou dans la création des 4 Fantastiques, c'est, j'expliquais le concept à mes camarades qui préparent l'émission, et initialement, ce voyage en fusée de Reed Richards avec Benjamin Grimm, son meilleur ami qui pilote la fusée, et sa copine, et le frère de sa copine un peu casse-pied, on a l'impression que c'est une virée en banlieue, c'est-à-dire que j'ai pas le permis, Ben, est-ce que tu peux nous emmener il prend la fusée, il s'en va comme ça, tout d'un coup il y a ces radiations cosmiques et ils reviennent avec des super pouvoirs. Il y a une dimension comme ça, mais complètement presque fantasque, si j'osais, pour expliquer comment ils ont eu leurs super pouvoirs.
En fait, si on regarde bien, pratiquement tous les premiers héros de Marvel, du Marvel moderne qui commence en 61, sont des monstres d'orgueil. On voit ça avec le Docteur Strange qui est un chirurgien à but de sa personne et qui provoque finalement par son alcoolisme l'accident qui va faire qu'il deviendra un mystique. On voit ça avec Tony Stark dans un autre registre qui est fabricant d'armes et qui va souffrir de ses propres armes. Et on a ça dès le premier épisode des Fantastic Four avec Reed Richards qui pourrait inspecter le doublage de sa fusée mais qui se dit non, on est trop pressé, on y va. C'est d'ailleurs la seule fois de toute la série où il est aussi inconsistant que ça. Je pense que ça lui sert de leçon. Et comme ils n'ont pas vérifié les choses, ils sont bombardés par les rayons cosmiques et reviennent. Mais il y a toujours il y a 2-3 personnages qui échappent à ça, comme Thor, mais on a ça aussi avec Spider-Man qui refuse d'être super-héros au début.
Quoique Thor commence très orgueilleux et en fait il devient Donald Blake.
C'est un rajout postérieur. Et donc en fait c'est une différence un petit peu des super-héros de la concurrence qui est que fondamentalement une bonne partie des héros fondateurs de Marvel, eh ben quelque part ils l'ont bien mérité, c'est bien fait pour leur figure.
Nous sommes ensemble pour parler des 4 Fantastiques, mais pour le moment on va écouter Come In, Come On de Velvet Revolver, le titre qui a accompagné la sortie du Fantastic Four de Tim Story.
To the left.
Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Lequel d'entre vous est le chef?
Moi, pour vous servir.
During our recent mission to the Von Boom Space Station.
Lors de notre mission sur la station Fatalis, nous avons subi des changements sous l'effet d'une énergie radioactive non identifiée.
Vous nous de votre expérimental d'être élastique.
Vous avez réussi à voler.
J'y travaille encore. Vous savez, c'est pas du tout évident.
Tout dire, nous n'en savons pas beaucoup plus que vous pour l'instant.
Non, c'est pas une maladie.
Aussi, c'est une maladie d'avoir des dons extraordinaires, on est grand malade.
Pardonnez-moi, mais là, cette chose n'est pas très fantastique.
Monsieur Grimm est un héros, c'est une gloire nationale.
Et puis surtout, qui dit équipe dit mascotte.
Une nouvelle ère commence. L'ère des quatre fantastiques.
Un extrait du premier film des Quatre Fantastiques réalisé par Tim Story en 2005. Alors, c'est pas le premier film, mais c'est le Fantastic Four 1 réalisé par Tim Story avec Yann Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans et Michael Chiklis, doublé en français par Xavier Fagnon, Barbara Del Sol, Maël Davansoulas et Patrick Fleurschheim. Un extrait compilé par la brillante Lisiane Larbani qui connaît parfaitement les Quatre Fantastiques. Elle est venue m'engueuler pendant la chanson, elle dit non, dis pas aux gens qu'on connaît pas. Si, elle connaît tout par cœur, vraiment, elle en parle tout le temps, c'est incroyable, c'est même elle qui m'a forcé à faire cette émission.
Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que Corentin connaît les dialogues par cœur, il était en train de nous les faire en même temps.
Quoi. Oui. Je n'ai rien contre ce film, contrairement à la vindicte populaire, je trouve qu'il est très sympathique, voilà.
Non. Alors, Xavier Fournier, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on parle d'un binôme, Stanley-Jack Kirby. Mais la paternité de certains personnages est encore aujourd'hui soulève énormément de questions. Donc comment travaillait-il et qui a vraiment fait quoi? Et est-ce qu'on peut le savoir?
J'ai commis un bouquin qui s'appelle Kirby's Fair où je me suis amusé à essayer de décortiquer ça. Il est clair que Jack Kirby, il faudrait inventer un adjectif qui veut dire au moins les trois quarts. C'est-à-dire qu'il n'est pas à moitié auteur des Quatre Fantastiques, il est au moins les trois quarts. Il faut aussi reconnaître que c'est un agglomérat de choses qui existaient avant. On a dit tout à l'heure que Human Torch, par exemple la Torche Humaine, dans les années 40, Marvel en publiait déjà une. C'est apparemment Martin Goodman et Stan Lee qui ont tenu à ce qu'il y ait cette Torche Humaine dans le groupe, une réinvention de la Torche Humaine. Donc dès lors, il y a une influence, il y a une ingérence dans ce qu'aurait fait Kirby s'il l'avait fait tout seul. Et il ne faut pas diminuer non plus les capacités de dialoguiste de Stan Lee, qui sont essentielles. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se faisait à l'époque, chez la concurrence, tous les super-héros parlent comme des boy scouts très disciplinés, bonjour monsieur le maire, tout ça. Les Quatre Fantastiques, la chose, Johnny Storm, parle comme des New-Yorkais, enfin avec de l'argot new-yorkais, avec même des choses qu'il faut pratiquement être du coin pour comprendre certaines subtilités. Et donc, d'un seul coup, on parle, c'est presque si Audiard commençait à faire du super-héros. Un Audiard américain qui avait... Donc il y a une vraie influence quand même de Stan Lee, même s'il n'est pas à la source de ces choses-là. Moi, je compare beaucoup ça, en général, à Alexandre Dumas, qui n'a pas vraiment écrit ses bouquins. C'est un type qui s'appelait Auguste Maquet, qu'on a écrit la... qui n'est pas le seul, d'ailleurs, à avoir écrit pour lui, mais qu'on a écrit la plus grande partie. Et Auguste Maquet avait fait un... Plus tard, avait fait un procès à Alexandre Dumas pour se faire reconnaître qu'il était l'auteur. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné, mais il a... de ce procès obtenu le droit de faire des suites des principaux romans qu'il avait écrits pour Dumas. Et il a fait des suites qui sont sorties dans une indifférence totale. Parce que Dumas, tout faux auteur qu'il était, il disait de temps en temps, tu me refais ça, et puis en fait celui-là on pourrait le tuer. Et le peu d'influence de Dumas faisait qu'il y avait ce petit plus qui faisait que l'autre en face se sublimait. Et ben Jack Kirby avec Stan Lee, c'est plus
oui, on, que... On a fait un blockbuster sur Dumas où on dit que c'était le premier showrunner...
C'est une forme élégante de dire glandeur, mais, voilà, Jack Kirby et Stan Lee, c'est supérieur à Jack Kirby tout seul, même si j'adore plein de choses qu'a fait Kirby à côté de ça, sur les New Gods, ou, enfin dans d'autres séries, mais il y a ce côté bouillonnement, à la fois des idées qui sont plutôt de Kirby, et puis à la fois de ce côté new-yorkais quotidien qui est apporté par les dialogues, et puis en plus une espèce de démesure, parce que forcément, aucun des deux n'avait fait de grosses études scientifiques. Il fallait expliquer les inventions de Red Richard. Et donc, Stan Lee avait l'art et la manière pour sortir une diarrhée verbale qui faisait que, comme personne ne comprenait,
les molécules instables.
Voilà, du coup, bah, tout le monde se disait c'est qu'il est vraiment plus intelligent que nous, puisqu'on n'y comprend rien.
Et il y a aussi cette dynamique de famille qui est quand même particulière. Ces engueulades homériques entre Johnny Storm et Ben Grimm, où clairement Johnny Storm passe énormément de son temps à harceler Ben Grimm.
Comme dans le film, hein, voilà.
Non, Corentin, il faut arrêter avec ce
pardon,
film.
Pardon.
Mais ça aussi, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu à l'époque chez les super-héros, c'est-à-dire des membres qui, des fois, ne peuvent pas se sentir, s'engueulent, quittent l'équipe momentanément, reviennent. Il y a tout ça, Arnaud.
Le vrai truc, c'est que avant... Je m'excuse. Mais le vrai truc, c'est qu'avant, il y avait dans chez la concurrence une barrière entre le bien et le mal qui était un petit peu admise, et donc voilà, on allait rester poli. Et là, d'un seul coup, chez Marvel, la différence entre le bien et le mal, elle est discutée par les personnages sans cesse, et on retrouve ça dans toutes les autres séries. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce fait que les héros ne soient pas d'accord sur les décisions à prendre, c'est d'un seul coup une explosion par rapport au consensus qui existait. Et le vrai truc qui, pour moi, change l'ADN du super-héros quand on arrive aux 4 Fantastiques, et tout l'univers Marvel après en descend, c'est vraiment de la généalogie, c'est que vous avez ce monstre, la chose, qui n'est pas reconnu comme un héros. Il y a des épisodes où il tourne le coin de la rue et des femmes s'enfuient. Il n'est pas récompensé pour ce qu'il est. Et on passe d'une époque où le super-héros était un jeune premier, c'était un acteur hollywoodien, et donc il était beau, donc il était bon, et puis le méchant était grotesque, il ressemblait à une gargouille. On passe à une époque, d'un seul coup, où la gargouille est le héros, et la société est incapable de voir au-delà de son apparence. Et on va retrouver ça dans plein d'autres séries, comme Hulk, par exemple. Mm-hmm. On va retrouver le fait que la société n'est pas capable de reconnaître ses héros dans Spider-Man. On va retrouver...
Les X-Men aussi.
On a tout ce truc-là, parce que tout simplement, à partir du moment où les 4 Fantastiques sont un succès surprise, ni Jack Kirby ni Stan Lee s'attendaient à ça, ils vont essayer de reproduire la recette à chaque fois en trouvant une petite valeur ajoutée pour les différencier. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a donc la famille avec les 4 Fantastiques, on a le lieu de travail avec les Avengers, puisque on a des héros qui se fédèrent, et on a les écoliers avec les X-Men.
Arnaud ?
Puis les relations sont celles d'une famille, mais parfois un peu dysfonctionnelles, puisque la condition de Ben Grimm fait aussi que Richard s'en veut. En fait, simplement de ce qui est arrivé à son meilleur pote, tandis que le meilleur pote, lui, s'auto-apitoie en fait sur sa condition. On a effectivement aussi le caractère de Johnny Storm qui font que, comme le disait Xavier aussi, ça découle aussi d'une façon d'écrire, et notamment des dialogues de Stan Lee, qui ne voulait pas que ces personnages soient parfaits. En fait, il faut qu'il y ait des défauts, il faut qu'il y ait des failles dans ces héros, parce que c'est aussi ce qui permet de les construire. Et je pense que c'est sans ces dynamiques-là, sans refaire le passé, j'imagine que les 4 Fantastiques n'auraient pas autant pris auprès du lectorat, qui pouvait même se reconnaître eux-mêmes dans les relations compliquées qu'ils peuvent avoir avec un frère, avec un ami ou avec leur compagne.
Oui, quelqu'un disait que, en fait, quand tu lis les Fantastic Four au début, tu lis pour Johnny Storm parce que t'es adolescent. Après, tu fais des gamins, donc tu lis pour Reed Richards et sous Storm. Et après, tu deviens un peu le vieux bougon quand tu es 50-60 balais. Et là, tu lis plus pour la chose. Et c'est vrai qu'en fait, cette structure, tout à l'heure, effectivement, Xavier vantait du coup les mérites de l'écriture à la Stan Lee. Et c'est ce rapport, en fait, entre l'horizontalité de la famille et la verticalité des concepts de Kirby qui a très bien fonctionné. Et informer tous les scénaristes qui sont passés derrière, en tout cas les bons. John Byrne notamment, qui a fait un très gros passage sur les Fantastic Four, lui, il refusait l'idée de la famille dysfonctionnelle. Pour lui, justement, ces querelles, c'est une famille fonctionnelle. Une famille, ça s'engueule, c'est normal, ça existe pour ça aussi. Et justement, il a beaucoup travaillé le sujet de la chose et de ce traumatisme en fait, qu'il avait, puisque la chose, à un moment donné, rencontre une jeune femme, Alicia Masters, qui va se mettre en couple et éventuellement se marier.
Sculptrice, aveugle.
Tout à fait, oui. Et il a peur, en fait, que si elle redevient Ben Grimm l'humain, elle le quitte, parce qu'elle est tombée amoureuse de Ben Grimm, la chose. Donc ça va quand même assez loin, on va vraiment développer tous ces concepts-là, à tel point que dans les volumes récents, on va dire par exemple que le Docteur Doom, qui est donc le meilleur ennemi de Reed Richards, en fait maintenant c'est plutôt l'oncle de ses enfants. On voit Valeria Richards qui va le voir pour lui demander conseil.
Et qui s'appelle Valeria, justement, voilà. Parce qu'elle a été baptisée par
exactement, Victor et justement Doom. Elle l'appelle Oncle Doom, Oncle Fatalis. Donc c'est vraiment cette structure qui englobe tout, même Galactus, qui au départ est un dieu... très puissant, une force de la nature
qui vient
manger la Terre, au bout d'un moment devient quelque part une sorte de meilleur ami un peu lointain de Reed Richards aussi. Il y a beaucoup de volumes où en fait il le traite comme un égal alors que c'est un dieu, lui, par exemple. Donc cette structure-là...
Mais ça souffle de vouloir manger des galaxies.
Bah évidemment,
une bonne galaxie entre potes.
Bah, encore lundi matin, voilà.
Non mais ça arrive.
Mais cette structure-là, justement, elle est vraiment constitutive. C'est que, contrairement justement aux héros de chez DC qui parfois vont très loin dans le côté divin, le côté noble, le côté très hiérarchisé justement des valeurs, les héros Marvel ont toujours eu ce côté... pour la plupart d'entre eux, toujours ce côté en fait trivial qui croise justement le noble, qui croise l'élégance et qui croise des principes beaucoup plus articulés.
Mmh. Et alors, sur cette famille fonctionnelle et ces engueulades de famille, je vais vous faire entendre ce qui pour moi est la meilleure adaptation des Quatre Fantastiques.
Tu fais encore des grimaces ridicules.
Mais non, voyons.
Tu fais des grimaces, chérie.
Tu es vraiment obligé de lire à table.
Oui.
Il faut couper ta viande, Flèche. Bob, tu peux donner un coup de main au carnivore. Flèche, tu n'as rien à dire à ton père à propos de l'école.
Si, on a dit c'est qu'une grenouille.
Il a encore été convoqué chez le proviseur.
Bien. Bien.
Non, Bob, c'est mal.
Quoi?
Il a encore été convoqué chez le proviseur.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Rien.
Il a mis une punaise sur la chaise du professeur pendant le cours.
Personne sait que c'est moi. On voit presque rien sur la cassette.
Ils ont tout enregistré, mais tu t'en es quand même tiré. Waouh! T'es vraiment une fusée. Et à quelle vitesse tu courais?
Bob, pas question de l'encourager.
Je ne l'ai pas encouragé. Je lui ai demandé à quelle vitesse.
Chérie!
Oh, bien sûr. Après la voiture, il faut que je fasse réparer la table.
Quoi? Tu as abîmé la voiture?
Tiens, je viens de chercher une autre assiette. Saleté de pain.
Bon, et toi, Violette, ça va les cours?
Rien à signaler.
Tu as à peine touché à ta viande.
J'ai pas très envie de pâter en croûte.
Oh, c'est le soir où on finit les restes. On a du steak, des spaghettis. Qu'est-ce qui te ferait envie?
Tony Ridinger.
Toi, la ferme!
Quoi, c'est vrai?
J'ai dit la ferme, espèce d'insecte.
C'est vrai, hein?
Défense de crier à table. Chérie?
Les enfants, obéissez à votre mère.
Corentin.
Voilà. Indestructible de Brad Bird.
Ben voilà.
Mais oui.
Ça, c'est une bonne adaptation qui n'en est pas une. Mais...
Il y a très loin devant les films de Tim Story, hein, je ne dis pas le contraire.
Mais justement, on est clairement dans une sorte de filiation parentale très très forte avec les Quatre Fantastiques.
Oui, alors Brad Bird ne revendique pas cette paternité, justement. Il dit qu'il s'est inspiré de différents comics.
Oui, de James Bond aussi.
De James Bond, mais évidemment, bien sûr, la base de Dr. No. Ceci étant, voilà, c'est probablement ce qu'on aura de plus proche, dans le sens où on a deux parents, deux enfants, on n'a pas la chose, mais on voit bien la structure familiale. Les costumes sont extrêmement inspirés.
Trois enfants,
oui. D'ailleurs, Jack, quelque part, c'est assez rigolo parce que quand on découvre, alors, les gens qui découvrent aujourd'hui les Fantastic Four, c'est relativement récent, on va dire, les pouvoirs vraiment manifestés de Franklin Richards. Là, justement, on comprend très bien que c'est exactement le même personnage. C'est-à-dire que Franklin Richards, c'est un enfant qui peut tout faire. Il c'est plus ou moins une sorte de dieu, en fait.
Oui.
Et Jack, il peut
pareil. Il a même carrément créé des univers dans lesquels.
Il a créé des univers. Il y a même une théorie qui voudrait qu'en fait, l'univers Marvel n'évolue pas temporellement, les personnages ne vieillissent pas. Parce que inconsciemment, en fait, Franklin Richards ralentit le temps pour leur permettre peut-être à ses parents en fait, de rester ses parents et lui de rester un enfant. C'est une théorie qui est vraiment très, très bien documentée, je suis assez étonné de l'avoir découvert récemment. Et donc effectivement, dans le film, Jack qui a tous les pouvoirs aussi, c'est pareil, c'est une sorte de parabole sur cette petite création-là.
On va continuer notre exploration de l'univers des Quatre Fantastiques, mais pour le moment, on va écouter « Sous mon Bob » par Philippe Catherine.
Bibi maman, sous mon Bob. Sur mes lobes, Harvey Mayakovsky, je dérange.
Bruce.
Blockbuster.
Je suis pas mauvaise.
Frédéric Sigrist.
Je suis juste dessinée comme ça.
Sur France Inter.
Les 4 Fantastiques sont un groupe de personnes de style assez différent. Mon boulot, c'est de vendre des BD. Et je ne pouvais pas faire la même chose deux fois. Donc les 4 Fantastiques sont devenus un groupe de personnes avec des pouvoirs bien différents. Les lecteurs m'ont associé à Ben Grimm. Je pense que dans un sens, ils ont raison. Ben Grimm parle comme moi. Mais bien sûr, il reste un monstre. Et moi, je peux toujours porter un costume pour ressembler à n'importe qui. Ben Grimm est un gars normal. Parfait pour se montrer en public, c'est sûr. Il fait des choses que j'aimerais savoir faire. Il peut tordre une poutre en métal comme on froisse une feuille de papier. Il peut venir en aide à des gens comme je ne pourrais pas. Il peut arracher une façade d'immeuble et en faire sortir les occupants avant que tout explose. Ben Grimm peut faire tout ça, alors que pour des gens normaux, ça prendrait des heures. Ben Grimm peut raccourcir le temps et régler des problèmes beaucoup plus rapidement que n'importe qui.
Jack Kirby dans une interview à la radio américaine, Corentin. Jack Kirby. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour ce dessinateur. Oui. Parce que, voilà, même dans sa manière qu'il a de parler, on sent vraiment le New-Yorkais. Déjà qu'il ne faut pas embêter.
Mais c'est vrai que c'est marrant qu'il se compare à La Chose, puisque La Chose est aussi quelque part issue du ghetto, comme lui, de New York.
Il y a Yonge
Street, il est juif aussi, il se marie avec les signes religieux juifs qui y conviennent. Jack Kirby, bon, après, on a fait une émission entière dessus sur Blockbuster. C'est c'est considéré comme le roi des comics, même si ce nom évidemment est ironique, repris d'une private joke, on va dire, qu'il avait avec un ami. C'est comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est celui qui a créé quasiment tout l'univers Marvel, au point même que Stan Lee d'ailleurs accepte de reconnaître qu'il a créé tout seul le Silver Surfer par exemple ou Galactus. Il a créé aussi beaucoup de personnages chez DC Comics. Il était là au moment de la grande révolution des années 40, il était là au moment de la grande révolution des années 60. Il a inspiré un style, des tonnes de dessinateurs sont passés derrière pour copier son style. Et dans les Fantastic Four, on a vu en fait la naissance de son côté auteur, puisqu'avant il travaillait beaucoup avec Joe Simon. C'est avec lui qu'il a créé du coup Captain America. Et là justement, il a commencé à montrer un petit peu ses connaissances théologiques, scientifiques, enfin en tout cas ce qu'il comprenait de l'espace et de ce monde-là. Et c'est quelque chose qu'il a toujours suivi. On parlait tout à l'heure des Inhumans. Il a recommencé à faire ça ensuite avec les Eternals et avec les New Gods. À tel point d'ailleurs qu'on considère maintenant qu'en fait Kirby est le dieu canonique de l'univers Marvel. Dans un comics de Mark Waid, les Fantastic Four vont dans l'au-delà pour sauver Ben Grimm qui vient de se faire tuer. Et en fait, Dieu les invite à voir le paradis. Ils rentrent dans le paradis. Et en fait, c'est le bureau de travail de Jack Kirby qui dessine un comics.
C'est Mike Wieringo, non, qui dessine.
C'est Mike Wieringo, absolument.
Et dans la scène, Jack Kirby Dieu et raccroche au téléphone. Il est en train de parler à quelqu'un. On lui demande qui c'était et il dit rien. C'était mon collaborateur et tout le monde comprend qu'en fait il parle de Stan Lee.
Et justement, ce surfeur d'argent, donc cette idée, qui est vraiment descendu directement des années 60, de ce surfeur nu avec un corps argenté qui parcourt les étoiles. A particulièrement plu et séduit les auteurs et créateurs français. Il y a notamment Mobius qui a dessiné une aventure du surfeur d'argent.
Oui, et puis il y a Gottlieb qui a fait le patineur d'argent aussi, qui a fait une parodie de ça. C'est devenu assez vite une référence culturelle. Alors ce qui est rigolo, c'est que le surfeur d'argent, donc qui est un être cosmique et qui est un peu messianique, il a... C'est vraiment, Corentin le disait, c'est vraiment un personnage où il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question. Même Stan Lee a dit que c'est une invention de Jack Kirby. Mais le Silver Surfer tel que tout le monde l'aime, ce n'est pas celui de Jack Kirby. Jack Kirby, il a créé un personnage un peu impassible, qui regarde les humains, qui s'étonne de les voir dormir, manger, il ne comprend même pas ce que c'est. C'est une sorte de machine humanoïde, qui est fascinée par l'humanité sans l'être. Et dès que c'est Stan Lee et John Buscema qui reprennent les aventures de ce personnage-là pour lui donner vraiment sa série, ça devient un type piégé sur Terre, qui est tout à fait surpuissant, d'accord, mais qui a tout à fait les passions humaines et qui explore la Terre en se demandant pourquoi, par exemple, la Chine envahit le Tibet, pourquoi des gens sont exécutés dans telle contrée, pourquoi les gens se prennent pas soin d'eux au sein de certaines familles. Et donc, effectivement, c'est devenu un objet de parodie parce que le type dérive dans la stratosphère avec la main sur le front, comment, pourquoi. Et on est à fond dans cette espèce de mentalité pour le coup de la fin des années 60 où on avait tous ces posters qui demandaient pourquoi en parlant de la guerre du Vietnam. Silver Surfer, en apparence, c'est une série cosmique, mais qui parle pour une bonne partie de la guerre du Vietnam.
Oui. Et alors pour les auditeurs qui ne seraient qui ne connaîtrait pas les origines du surfeur d'argent. Son nom est Norin Rad et en fait, c'est un extraterrestre. Il vivait sur une planète qui a été sur le point d'être dévorée par Galactus, cette entité cosmique qui mange des planètes. Et il a supplié Galactus de ne pas, de ne pas dévorer sa planète. Et Galactus a dit très bien, mais en échange, tu vas devenir donc mon héros, celui qui va me trouver des nouvelles planètes susceptibles d'être consommées. Et donc dès lors, l'enjeu pour Norin Rad, c'est de trouver des planètes où il y a personne pour être sûr que Galactus puisse manger une planète vide de vie, ce qui des fois n'arrive pas. Hein. Donc c'est aussi un personnage ambigu avant qu'il tombe sur Terre et qu'il rencontre les Quatre Fantastiques.
Ça a failli être le premier film Marvel, parce que dans les années 70, ils avaient négocié avec un producteur pour en faire une comédie musicale dans lequel aurait chanté Olivia Newton-John. Ça s'est pas fait, et ils ont gardé que le personnage féminin qu'ils ont un peu retouché, et c'est devenu l'histoire d'une sorte de muse qui tombe sur Terre. C'est devenu le film Xanadu.
Voilà, dossier
incroyable, Xavier Fournier, oui. Voilà, on applaudit. Je voulais juste rajouter un petit détail, parce que Kirby n'est pas, enfin, c'est pas juste un coup d'une fois, hein, le Silver Surfer, le mec qui surfe dans l'espace. Il y a aussi le Black Racer chez DC Comics,
c'est
qui
DC
est
Comics.
Pour le coup un skieur de l'espace,
skieur, oui.
Et qui est en fait la mort chez les New Gods.
Un skieur afro,
bah, c'est Black Racer.
Oui.
Donc voilà. C'était pas très subtil à l'époque.
C'était pas très subtil.
Voilà.
Mais à l'époque, on l'était pas.
Oui, Black Panther. Voilà. Non. Alors évidemment, il y a le personnage du surfeur d'argent, il y a le personnage de Galactus, mais Arnaud.
Non, pas moi.
Bah si.
Je suis pas aussi spécialiste que mes collègues.
Il y a notamment le Docteur Doom.
Fatalis. Oui. Qui est sûrement, et je crois que Xavier abonde dans ce sens, une des meilleures traductions françaises qu'on a de personnages Marvel. Et je voudrais laisser la parole à mes collègues pour vraiment les origines précises, sachant que je sais qu'il apparaît dans le 5e numéro de la série, donc très rapidement, qu'il enlève Sue Storm dans la première aventure et qui va devenir en fait.
Et Fatalis enlève beaucoup de monde.
Il fait que ça, c'est peut-être une passion, mais qui va surtout prendre une ampleur en fait, parce que c'est un personnage qui est très apprécié des fans, et les premières années des 4 Fantastiques, de toute façon, et mes collègues l'ont dit aussi avant, c'est que ça déborde de créations et de nouveaux personnages qui vont apparaître, mais Doom va s'imposer en fait comme l'un des personnages préférés du lectorat, pour devenir en fait l'arch-némésis, l'ennemi juré des 4 Fantastiques, et va continuer ensuite d'évoluer dans le temps. En fait, c'est un personnage qui prend une dimension de plus en plus grande, parce que au départ, enfin en tant que simple ennemi, en fait c'est déjà ses origines vont être écrites 2 ans plus tard dans un numéro annuel en fait, donc il va se passer quand même 2 ans où on va pas forcément savoir d'où il vient. On va apprendre ensuite, mais en fait qu'il vient d'un autre pays imaginaire, la Latvérie, dont il est le régent, ce qui va aussi lui donner une dimension de plus en plus importante, parce que c'est plus juste un simple super vilain dans son laboratoire ou qui aurait des griffes contre Reed Richards ou contre d'autres super-héros, mais quelqu'un en fait qui a une vraie arrogance en tant que régent d'une nation, qui a des rêves de grandeur pour son propre peuple, et ça va aussi permettre
peuple qu'il apprécie.
Oui, voilà, et ça va aussi permettre de densifier sa caractérisation, parce que c'est pas non plus quelqu'un de méchant en tant que tel, mais qui a aussi ses propres ambitions et dont on peut comprendre parfois les motivations pour la sauvegarde de son peuple. Je sais qu'il y a tu me diras, mais en 2019, une série solo qui a été consacrée à Doom, où en fait, il devient le protecteur de son pays qui devient attaqué, et on s'aperçoit que c'est pas juste un super vilain parmi d'autres. Et après, il y a d'autres récits comme ceux de Hickman ou Secret Wars, où on voit que c'est quelqu'un qui est capable en fait d'avoir une influence telle sur des pans de réalités multiples en fait. Donc c'est quelqu'un qui a été de toute façon classé parmi dans le top 10 certainement des meilleurs super vilains de Marvel, et qui en termes d'échelle de puissance place aussi très très haut.
On va poursuivre notre exploration des personnages des 4 Fantastiques, mais pour le moment on écoute Urgence par Eddie Depreto.
Toi tu connais les sourires qui me font danser tous les soirs. Comme j'aime les jours qui te firent vers de folles nuits qui se couchent tard. Toi tu danses comme tu respires, tu ne vas jamais me laisser m'asseoir. Tu sais travestir le pire en un simple bonheur sans histoire. Tu as l'air de savoir faire, tout semble si facile pour toi. Mon cœur serre, oui mais j'en foire, mais toi tu danses toujours au pas. Oh toi tu gardes, oui tu gardes le sourire même sous le brouillard. Mais ce soir je ne te vois plus, je danse seul et la piste est noire. Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences, posant ton cœur danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? J'ai fait le 911, demandé à parler à ta bonne étoile. On m'indique qu'elle danse son dernier bal. Ce soir on voit l'adresse, c'est moi qui te soigne. Il est minuit, minuit, pas midi, midi. Oh baby, baby, je préfère gérer la nuit. Sur moi qu'on dansera même si tu die, die, die. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? Je t'emmènerai danser quelque part, on hurlera à mort sur les boulevards. Suffira d'allumer nos gyrophares. Avant c'était toi qui dansais l'ennui. Ce soir je peux tout porter, toi et tes poésies. J'aurai celui qui guide, cette nuit c'est moi qui drive. Jusqu'au petit matin, puis on se dira bye, bye, bye. Juste une dernière danse. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur danser dans l'ambulance?
En route pour Blockbuster
sur France Inter
avec Frédéric Sigrist.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Afraid of ghosts?
Tu as peur des fantômes?
Since you're a ghost,
si t'es un fantôme, ça ne gênera pas que je t'explose ta sale gueule.
Let him go.
Lâchez-le. But
you know what? Attendez, vous savez pas qui c'est?
Victor von Fatalis, il est placé sous mes ordres.
Ben, let him go.
C'est bon, tu peux le lâcher.
How is this possible?
Comment est-ce possible?
How are you still alive?
Comment se fait-il que tu sois vivant?
Ce
n'est pas à vous que je le dois.
Fatalis a pris contact avec l'extraterrestre. Ces informations sont précieuses.
Suffisamment peut-être pour sauver la planète. On va clarifier les choses. Vous voulez bien? Je vous déteste. Vous tous. Mais notre monde est en danger, alors on doit collaborer si on veut survivre.
Général, croyez-en notre expérience. Faites confiance à Victor et vous le regretterez.
Le seul à qui j'ai eu tort de faire confiance jusqu'ici, c'est vous, Richards.
Tu vas quand même pas rentrer là-dedans.
On va voir ce qu'il a.
Un extrait des 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent, réalisé par Tim Story en 2007 avec le même casting que le premier, dont Julien McMahon, doublé en français par Arnaud Arbessier dans le rôle de Victor von Doom. Xavier Fournier, alors évidemment, je préviens aussi les auditeurs, il y a un nouveau 4 Fantastiques qui est en train de se préparer, avec notamment Pedro Pascal qui interprétera Reed Richards, Vanessa Kirby qui interprétera Sue Storm, qui n'a rien à voir avec Jack Kirby, mais elle est bien nommée, et également Joe Quinn, qui lui, que vous pouvez voir actuellement dans le Sans un bruit, le préquel, et le dernier...
Oui.
Et alors c'est aussi, un acteur que j'aime beaucoup dans The Bear, mais dont je ne suis pas capable de retrouver
c'est
le
cousine
nom.
Dans The Bear.
Voilà, cousine dans The Bear. Et Xavier Fournier, on n'a pas parlé du cas Sue Storm.
Oui.
La seule fille du groupe, mais qui a eu...
La bien nommée femme invisible.
La femme invisible, c'est-à-dire premier groupe de super-héros chez Marvel, première famille, et la seule fille du groupe, elle est invisible.
Et on n'en a pas parlé, non pas parce qu'on l'aime pas, mais parce que au début, c'est elle qui change le moins des habitudes, c'est-à-dire que c'est jamais qu'une potiche, et il y avait déjà dans les récits de super-héros des années 50, une potiche blondasse, un peu comme ça, enfin Lois Lane était pas blonde, mais elle était pas toujours très en forme dans les épisodes de Superman de la même époque. Ce Storm, elle est intéressante, non pas pour ce qu'elle est, mais pour son évolution.
Pour ce qu'elle devient, ensuite.
Pour ce qu'elle devient. Et ça commence assez vite, parce que le lectorat était jeune à l'époque, et donc, les jeunes lecteurs avaient l'âge des... des garçons qui, en cours moyen, ont honte de jouer avec des filles dans la cour de la récré. Donc, ils se sont mis à écrire en disant « Cette fille n'a rien à faire dans l'équipe, il faut s'en débarrasser, il faut la tuer. » Et Jack Kirby...
C'est radical.
Ça n'a pas trop changé.
Ah bah, ça donne déjà... Oui. On imagine bien les enfants en train de demander la mort de quelqu'un. Oui. Et Stanley et Jack Kirby, loin de se démonter et de s'en tenir à une réponse dans le courrier, ils ont sorti un récit dans lequel les quatre fantastiques lisent eux-mêmes leur courrier des fans et expliquent aux jeunes lecteurs que, bah non, elle a tout à fait son rôle à jouer dans l'équipe. Et déjà, c'est un truc un peu bizarre. C'est méta. On a presque l'ancêtre de Deadpool, quelque part, là-dedans, dans le fait qu'on vous parle. Et puis, petit à petit, la fonction va grandir et il y a le fait que non seulement elle se marie, on peut dire que ça, c'est un peu ringard, qu'elle soit valorisée par le fait d'être femme mariée, mais c'est surtout la première héroïne majeure qui accouche. Alors l'épisode n'est pas vulgaire, on voit pratiquement rien, on voit un docteur qui sort de la salle d'opération, mais c'est la première héroïne qui, ça ne se passe pas par magie, il n'y a pas un grand flash blanc, et il y a un fils qui est créé, on ne sait comment. Là, effectivement, il y a toute une logique comme ça. C'est aussi la première héroïne qui, dans les années 70, dit à son mari, écoute, ça ne va pas bien dans le couple, en plus vu comment tu traites notre fils, parce que comme on l'a dit, il a des pouvoirs quasi divins, et que Red Richard fait 2-3 trucs pas clairs pour oblitérer ces pouvoirs-là, elle va reprendre sa liberté, ils vont être séparés pendant quelques temps. Et puis dans les années 80, elle va devenir pratiquement le leader de l'équipe. Et puis non seulement il y a une saga où effectivement sa personnalité la plus noire devient Malice, mais en plus elle est à nouveau enceinte et là elle fait une fausse couche. Et bon, dans des récits de super-héros, évoquer le calvaire qui est une fausse couche, c'est pas quelque chose auquel on s'attendait.
Personnage qui désormais a un statut hyper important au sein des Quatre Fantastiques, et même en termes de puissance aussi. Derrière les Quatre Fantastiques, il y a le cœur, le centre névralgique du monde Marvel moderne, parce que je regardais dernièrement des personnages tels que Agatha Harkness, qui va avoir aussi une série sur Disney+.
Donc la nourrice des enfants.
La nourrice Richard, des en enfants, c'est la nourrice des enfants Richard. Ensuite, le principe de convergence du multiverse ou ce genre de choses, c'est apparu dans les Quatre Fantastiques durant l'arc de Jonathan Hickman, si je ne m'abuse.
Oui.
Donc en fait, même si les Quatre Fantastiques n'ont jamais et ne sont peut-être plus cette série la plus vendeuse de chez Marvel, c'est le carrefour de tout leur...
Pour moi, c'est une machine à incuber. Puis tout ce qui génère un peu plus de courrier, tout ce qui génère un petit pic de vente, à un moment, ils se mettent à lancer des séries. Donc on a eu le Silver Surfer, on a eu le Black Panther grâce à ça.
Même Venom, mais oui, c'est plus compliqué que ça.
Oui, mais le symbiote qui se sépare, c'est Red Richards qui l'identifie comme un symbiote.
Mais je voulais juste préciser quelque chose, parce qu'actuellement, il y a une nouvelle page de l'univers Marvel qui s'est ouverte avec la nouvelle saga Ultimate Comics, donc c'est un autre univers que la Terre principale où les aventures communes des héros ont lieu. Le vilain de ce nouvel univers, c'est Red Richards. On n'a pas parlé de la version Ultimate, mais le Maker. Il y a aussi un double maléfique, on va dire, de Red Richards qui existe. Et lui, par contre, est très important. Il a dirigé, entre guillemets, en sous-main, tout un univers pendant 20 ans. Et c'est encore aujourd'hui considéré comme Docteur Doom, l'un des plus grands vilains de l'univers Marvel actuel.
On voit là encore une série de comic book qui nécessite un deuxième, troisième, quatrième, cinquième blockbuster, si jamais on m'en donne l'occasion. Merci Corentin, merci Arnaud, merci Xavier d'avoir évoqué la création des Quatre Fantastiques. J'aimerais remercier également Charles de Silia qui réalise cette émission, une émission divinement préparée par une équipe, mais de passionnés par les comic books, tels que Benjamin Ducy, Lysiane Larbani, Emilien Miloc, notre stagiaire, et Camille Olive également. Et à la technique aujourd'hui, j'imagine que lui aussi, il est fan de comic books, Titouan Labarre, merci à lui. Et vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Instagram, @FrédéricSigrist. Et lundi, on se retrouve pour parler d'une immense comédienne, Meryl Streep. It's clobbering time.